ça ne sera pas la dernière. Ce soir, dans le rendez-vous en direct sur France Culture, il sera question de Michel Houellebecq, de sociologie, des années post-68, de Pierre Bourdieu et même de serial killer, avec Julien Gosselin qui met en scène les particules élémentaires, adaptation du roman de Michel Houellebecq, qui démontrait que l'ultralibéralisme prenait son origine dans les mouvements hippies et beatniks de la fin des années 60. Lucille Como.
Portrait d'un metteur en scène travaillé par la littérature contemporaine ou comment faire du roman le lieu d'une réflexion sur le rythme au théâtre.
19h30, le questionnaire autoportrait du lundi de Manu Farine. Ce soir, ce sera avec Léonie Simaga, sociétaire de la Comédie française. 19h35, plateau critique avec Éric Chauvier qui signe Les mots sans les choses. Dénonciation critique de la désaffectation du langage dans les médias, la politique et la vie quotidienne. Lucille.
Retour sur la pensée d'un anthropologue qui inscrit sa réflexion dans des formes originales plus proches du récit que de l'essai pour une réappropriation de l'ordinaire.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle avec le journal de la culture de Zoé Sfès. Ça y est, il est plus nouveau.
It's amazing to be here today with all
c'est incroyable d'être là aujourd'hui avec toute cette excitation. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Je me sens bouleversé par votre présence à tous. J'ai toujours aimé la France, alors être aimé par la France, c'est vraiment important pour moi. Paris et la France, elles ont toujours été le centre de la culture et continuent d'être le centre de la culture, quoi que les gens fassent ou disent.
Bonsoir Zoé Sfès.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
Quelle émotion dans ce son du jour.
Mais oui, c'est la voix de Frank Gehry, l'architecte américain octogénaire qui est carrément à l'honneur à Paris ce mois-ci. Une exposition lui consacrée au centre Georges Pompidou. Et puis surtout, le président François Hollande inaugure en ce moment même la Fondation d'art contemporain Louis Vuitton, bâtiment qu'il a conçu et dont évidemment on vous parlera largement vendredi puisque nous serons en direct depuis la Fondation Louis Vuitton.
Et on passe tout de suite au dossier du jour, art contemporain encore, puisque ça sera la tonalité de toute cette semaine dans le journal de la culture. L'affaire a fait grand bruit ce week-end. La sculpture gonflable de l'artiste américain Paul McCarthy, qui avait été installée place Vendôme à l'occasion de la FIAC, Foire internationale d'art contemporain. Cette installation, sobrement intitulée Three, mais qui évoquait aussi un plug anal, a été vandalisée ce week-end, c'est-à-dire qu'elle a été dégonflée. Plusieurs associations radicales s'étaient déjà opposées d'ailleurs à son installation.
Oui, alors d'abord, il faut rappeler que cette œuvre a été commissionnée donc par la FIAC, par la Foire internationale d'art contemporain, mais elle n'a pas été financée par l'argent public, comme l'ont laissé entendre certains groupuscules d'extrême droite sur Internet.
Mais Et quand bien même,
mais par la galerie de Paul McCarthy. Puis surtout, il faut rappeler d'abord qui est Paul McCarthy. Écoutez, la jeune curatrice Martha Kirzenbaum, elle a été élevée en France, mais elle travaille aux États-Unis.
Paul McCarthy, c'est pas n'importe quel artiste américain, c'est un des plus grands artistes américains du XXe siècle, qui a été professeur un peu en chef au département d'art plastique de UCLA, qui est une des plus grandes universités américaines, qui a aussi formé des générations d'artistes américains de Los Angeles à travers son professorat. Paul McCarthy est né en 1945 à Salt Lake City, comme la capitale du mormonisme américain, donc son travail est marqué par cette enfance au sein de milieux très religieux, très conservateurs, et donc il y a toujours quelque chose chez Paul McCartney. Il nous pousse un peu vers nos retranchements physiques, que ce soit nos intestins, nos semences sexuelles. Voilà. Il nous met un peu en porte-à-faux vis-à-vis de notre propre corporalité, j'ai envie de dire. Et je pense que c'est ça qui dérange beaucoup.
Qui dérange tellement que la commissaire de la FIAC, sa directrice, Jennifer Flay, a renoncé à faire regonfler la statue.
Un aveu un peu d'impuissance finalement face à tant de violence. Éric Mézil est directeur de la collection Lambert à Avignon. Il avait choisi en 2011 d'exposer l'œuvre déjà très polémique d'André Serrano, Peace Christ. L'œuvre était donc très polémique et puis elle aussi, elle avait été vandalisée. Il avait choisi pourtant de continuer l'exposition. Mais là, il dit qu'il comprend très bien la décision de la FIAC. Écoutez-le.
Je suis navré, mais c'est vrai que je pense que retirer l'œuvre maintenant est devenu raisonnable. Moi, c'est vrai que j'avais joué le fait qu'après la destruction de l'œuvre, il fallait laisser le musée ouvert. Je l'ai fait, mais je crois que je ne le referai pas parce que ça a été très très dur, très dur à vivre. Le procès qui s'en est suivi a été d'une violence extrême avec d'abord Civitas et puis ensuite avec les agresseurs, ceux qui avaient détruit l'œuvre. C'est quelque chose de très, 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 très dur à vivre. Hier, je parlais avec Jennifer Flay, je peux comprendre sa décision. C'est vrai que je pense que si elle avait gardé cette œuvre d'Alain Vendôme, la FIAC était parasitée complètement. On n'aurait parlé que de cela.
Cette décision de ne pas regonfler l'œuvre est une première quand même dans la carrière de Paul McCarthy.
Oui, en fait, c'est la première fois qu'il doit faire face à une telle violence.
Parce qu'il a été giflé.
Voilà, violence physique, c'est ce que nous raconte justement Martha Kirzenbaum.
Alors, elle a été vandalisée la nuit, mais alors ce qui est d'autant plus grave, et je pense que ça c'est quelque chose sur lequel il faut aussi insister, c'est que Paul McCarthy a quand même été agressé dans la rue, au visage, en octobre 2014, agressé tandis qu'il installait sa pièce. Et je pense que c'est ça qui est très grave, c'est-à-dire que la provocation, je pense que Paul McCarthy en a l'habitude, que ses œuvres ont toujours fait polémique. En revanche, les butt plugs n'ont jamais été ni vandalisés, ni retirés, alors qu'ils ont été montrés dans les publics, en Europe, aux Pays-Bas, aux États-Unis. Alors ça a toujours provoqué des débats, et tant mieux. En revanche, qu'un artiste de 69 ans soit attaqué en pleine rue et qu'apparemment on lui ait dit « voilà, vous n'êtes pas français, vous n'avez rien à faire ici », ça, ça dénote un conservatisme moral qui, moi, me fait peur.
Voilà, après alors... l'affaire de Peace Christ, en effet, cette polémique met donc en lumière la relation particulière que la France, enfin pas la France en général, que certains groupes extrémistes entretiennent avec l'art contemporain et même le spectacle vivant.
Tout à fait, parce qu'il y a beaucoup de ces œuvres dont on parle là qui avaient déjà été exposées, parfois dans des pays qui sont beaucoup plus religieux ou en tout cas beaucoup plus puritains, l'Espagne, le Portugal, les États-Unis, qui est aussi un pays très puritain. Pour Éric Mézil, le problème vient bien effectivement de la France ou d'une certaine partie de la France et il y a toute une rééducation à faire.
Moi, je crois qu'il y a un problème auquel les Français devraient essayer de réfléchir, c'est que ça fait depuis 50 ans et plus que Paris n'est plus la capitale de l'art, ce sont les États-Unis, et c'est qu'on est devenu un pays complètement fermé, ostracisé. Croyez-moi, ce n'est pas d'aujourd'hui, quand on pense à Cologne de Buren en 86, qui avait été un scandale national, quelque chose qui ne passe pas. Je pense qu'on a véritablement un problème culturel avec l'art contemporain et qui est triste, parce que franchement, on est bien le seul pays. Et il ne faut pas pleurer après. Pourquoi les artistes français sont très peu représentés à l'étranger, si les Français eux-mêmes n'aiment pas nos artistes. Il y a, je crois, un gros travail à faire.
Voilà, donc la FIAC, elle, on en reparlera et ce sera en direct ce mercredi.
En effet, peut-être une réaction de la part de nos deux invités, Julien Gosselin et Éric Chauvier. Julien Gosselin, parce que ce n'est pas que l'art contemporain. On se souvient par exemple des exactions que certains radicaux avaient menées lors de la présentation de pièces de Castellucci en France notamment.
Sur ce sujet-là, évidemment, c'est atterrant, mais c'est tellement atterrant que j'ai du mal à avoir un jugement intéressant là-dessus. Je trouve ça juste désolant et absurde. Après... ce qui est assez drôle, c'est que je lisais sur Twitter que ça pourrait être le thème d'un livre de Houellebecq, une sculpture, un plug anal géant construit place Vendôme et détruit par les extrémistes.
C'est vrai.
Donc, dans un livre de Houellebecq, ça aurait pu être très drôle. Là, c'est juste accablant.
Éric Chauvier, anthropologue.
Non, moi, j'ai juste vu un sapin, en fait.
Ah oui. Vous en avez parlé à votre psychanalyste?
Non, je ne suis plus suivi. Mais... Je me posais la question, je me disais que Van Gogh n'avait pas eu la chance finalement de pouvoir créer de cette façon-là, ça lui aurait rapporté sans doute beaucoup plus. Je trouve que c'est très intéressant en termes de, si vous voulez, de foisonnement de médiatique autour de cet événement.
C'est-à-dire, précisez votre pensée, j'ai l'impression que c'est une critique à peine déguisée contre une sorte de forme d'art contemporain.
Oui, quelque chose de cet ordre-là.
Et de, pourquoi ?
Si vous voulez, l'œuvre passe un peu au derrière, si vous voulez,
ah bah
derrière
pas, le pas derrière véritablement, le battage, pas véritablement, elle est quand même au centre médiatique. De la polémique.
Non, mais de toute façon, je n'ai vu qu'un sapin, donc
c'est peut-être pour ça alors. Ouais. Très bien, on commence. On commence avec les brèves.
Mais oui, on continue et l'on ouvre avec cette autre polémique au Vatican cette fois. Le Vatican qui a inauguré samedi une saison de concerts sponsorisés par des grandes marques qui seront donnés toute l'année dans la chapelle Sixtine. Idée qui est une première et qui fait polémique en Italie. Il ne s'agit pas d'exploitation commerciale, précise aujourd'hui le directeur des musées du Vatican. Tous les bénéfices iront aux œuvres caritatives du pape.
Une spectatrice voilée sommée de quitter l'Opéra de Paris.
Oui, on ne l'apprend que maintenant, mais au début du mois, lors d'une représentation de la Traviata, une spectatrice originaire du Golfe qui portait un niqab, un voile presque intégral, a été priée pour respecter de la loi, soit de découvrir son visage, soit de quitter la salle, ce qu'elle a fait. L'incident a poussé le ministère à rédiger une note sur la question.
Le Grand Prix de la traduction pour Joël Dufay.
La Société des gens de lettres a récompensé cette traductrice de Hongrois pour l'ensemble de son œuvre. Elle travaille depuis 88. Ce prix survient alors qu'elle vient de proposer une nouvelle traduction de Guerre et guerre de Laszlo Krasznahorkai, Orca.
Et la dernière ?
La dernière, puisqu'on parle
d'architecture.
Alors, il s'appelle Krasznahorkai. Et c'est ça, il faut mieux le dire une deuxième fois, de la manière la plus correcte possible.
Et la troisième fois, je crois que ça sera parfait.
Non, je crois que ça n'ira pas. On parle d'architecture, si vous voulez bien, c'est un peu plus simple. L'histoire d'un pays dépassé par ses audaces, ou l'histoire qui nous rappelle que les politiciens ne sont pas toujours de grands esthètes. La Chine, qui a vu fleurir des bâtiments tous plus fous les uns que les autres ces dernières années, est devenue un peu l'Eldorado des architectes, terre où naissent les constructions les plus folles, les plus ambitieuses de notre temps. Eh bien, son président Xi Jinping, loin de s'enorgueillir d'être à à la tête du pays de tous les records en matière d'architecture, en a marre. Il a déclaré, interview au quotidien du Peuple, le journal du parti, qu'il fallait, je cite, « dire stop aux architectures bizarres, grotesques et autres incongruités ». Ironie du sort, le siège du quotidien du Peuple, donc à qui il donnait cette interview, fait partie lui-même des bâtiments qu'il critique, puisqu'il s'agit d'une tour pour le moins phallique, ornée d'une forme de corolle à son sommet, et qu'on a gentiment rebaptisé le petit pénis de Pékin.
En fait, c'est la taille qui lui pose problème. C'est parce que c'est le petit pénis de Pékin. C'est pour cette raison. Allez, on y va.
Le rendez-vous.
Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Bruno Clément. Vous pouvez me laisser un message. Vous pouvez également aller vous faire enculer.
Il y a un thème, manifestement, ce soir dans l'émission. C'est Frontal, avec vous, Julien Gosselin, metteur en scène, un parcours qui commence à peine il y a 4 ans. À 27 ans, vous montez Les Particules élémentaires, c'est au Théâtre de l'Odéon, Atelier Berthier à Paris. C'est la reprise de votre spectacle très remarqué, c'était au Festival d'Avignon en 2013. Il avait reçu le prix Jean Laurent de la révélation théâtrale de l'année. Alors la pièce est une adaptation du roman de Michel Houellebecq, un roman de 98. L'histoire en deux mots, c'est celle de deux frères, Michel et Bruno. Michel est un scientifique de renommée mondiale. Il vit seul et il va contribuer à une révolution métaphysique majeure dans l'histoire de l'humanité, clonage et avènement d'une nouvelle humanité. Bruno, lui, vit sa vie au présent, dans la recherche systématique de la jouissance physique et donc dans la frustration. Le tout est organisé sous le regard d'un narrateur qui a la même dégaine que Michel Houellebecq. Le livre a paru en 98, vous étiez très jeune, une douzaine d'années, et les personnages sont plutôt ceux de la génération de vos parents, nés dans les années 50. Qu'est-ce que le texte dit de la vôtre ? Pourquoi s'en préoccuper par votre génération ?
Cette question abordée par Houellebecq du libéralisme économique et du libéralisme sexuel, elle ne s'est pas arrêtée dans les années 90.
Bien entendu.
Elle est forcément encore plus présente pour nous. La question de la quête de la jouissance absolue, elle est très forte, je crois, chez ma génération, chez la génération qui précède et sûrement chez la génération qui arrivera après nous. Et la question du libéralisme sexuel et de l'extension du domaine de la lutte dans le libéralisme économique, c'est des questions qui s'ouvrent encore aujourd'hui.
On dit souvent que Houellebecq, c'est un moraliste, en tout cas c'est assez évident avec Les Particules élémentaires, qui a un côté très démonstratif sur les fondements 68-arts de la société libérale. La libération sexuelle des beatniks et des hippies serait à l'origine de la violence pulsionnelle du libéralisme. Il fait même un lien très net entre hippies et serial killers. Comment vous vous positionnez par rapport à ce discours qui pourrait apparaître très réactionnaire?
Je me positionne assez mollement. C'est pas pour pas prendre de risques, c'est parce que c'est justement l'endroit où j'ai envie d'amener le spectateur. C'est-à-dire, j'ai envie que le spectateur, lui, puisse se positionner intimement par rapport à ça. Mon avis sur la question, il n'est pas forcément intéressant et je ne suis même pas sûr d'en avoir un très précis. Certains soirs, je me dis que Houellebecq est vraiment génial et alors je me sens peut-être réactionnaire, mais réactionnaire intelligent. Et certains soirs, je suis pris de panique devant ce discours-là et je me dis qu'il a peut-être tort. Mais globalement, c'est ça qui m'intéresse. Quand je vois des spectateurs sortir furieux de la salle, généralement, je suis content parce que je me dis qu'on a provoqué quelque chose. Et quand le théâtre peut provoquer ce genre de choses, politiquement, c'est intéressant.
Lucille Comeau.
Vous aviez supprimé pendant un temps du spectacle un passage sur les atrocités commises par le personnage de Dimeola, chanteur dont il fait en fait un serial killer. C'est un passage hyper violent qui ressemble à des passages de American Psycho de Bret Easton Ellis. Et puis finalement, vous l'avez réintégré dans le spectacle. Quel statut il a ce texte pour vous ?
Je l'avais enlevé parce qu'il ne participe pas de la structure narrative du spectacle. Il n'est pas utile pour comprendre l'histoire des deux frères. Quand on fait un spectacle qui dure déjà 3h40, 3h50, il faut faire attention à ne pas rajouter des parties trop longues. Après, je sais que je voulais commencer la deuxième partie du spectacle, parce que c'est le texte qui ouvre la deuxième partie, par quelque chose de très politique. Dans la première partie, je me rendais compte que le spectacle arrivait vers quelque chose qui était plus comique, plus humain, plus émotionnel aussi à certains égards. Et je voulais qu'on arrive vers le Houellebecq politique à l'entrée de la deuxième partie.
Éric Chauvier, est-ce que Michel Houellebecq est un des auteurs qui vous intéresse par la pensée qu'il peut provoquer ?
Oui, beaucoup. Moi, j'ai un rapport à Houellebecq assez ambivalent, c'est-à-dire que je suis lecteur de ses livres. Je trouve que sur le monde musulman, il s'est un peu égaré, par exemple. Je trouve que La carte et le territoire, sur ces zones périurbaines, extrêmement périphériques, il est carrément visionnaire, en fait. C'est-à-dire que les sciences sociales ne vont pas sur ces terrains-là aujourd'hui. Et Houellebecq y va, ce qui me semble... c'est une intuition assez très très forte qu'il peut avoir sur ces questions-là. Et puis surtout, c'est un des rares écrivains contemporains qui, à mon sens, questionne la négativité du monde social, c'est-à-dire qui est capable de comme vous le disiez, de faire quitter peut-être sa version théâtrale, faire quitter une salle, mais aussi de susciter cette réaction-là. Et puis, il est très ambitieux, c'est Tocqueville, ses références aussi, hein, c'est à la fois Lovecraft, Tocqueville. C'est-à-dire qu'il y a quand même une ambition, une vision du politique très très forte. Mais c'est très important de pouvoir aussi détester cette littérature.
Julien Gosselin, vous l'avez rencontré, Michel Houellebecq ?
Non, toujours pas.
Vous avez cherché à le faire ?
Pas particulièrement, mais il va venir voir le spectacle prochainement, je crois.
Vous ne lui avez même pas écrit, non plus ?
Si, on sait. En tout cas, je lui ai envoyé l'adaptation avec un petit mot et il a accepté gentiment l'adaptation. Ça s'est arrêté là.
Par exemple, par rapport à l'adaptation, le fait que vous repreniez en incipit, c'est-à-dire au début de la pièce, une poésie qui n'est pas du tout à cette place-là, c'est quelque chose qui l'a regardé, qui l'a intéressé. Il n'y avait aucun commentaire ?
Il y a eu des commentaires, mais assez légers. Grosso modo, l'adaptation est tellement fidèle à Houellebecq. Il y a 99,9% du texte théâtral et de Houellebecq. Alors après, effectivement, j'ai déplacé des choses. Mais globalement, il n'y avait pas de rajout de ma part.
Lucille.
Du coup, avec le fait de placer la poésie en premier, la première phrase de la pièce est en alexandrin. Nous vivons aujourd'hui sous un tout nouveau règne.
Ça résonne vraiment.
De manière vraiment particulière, du coup, sur scène. Comment est-ce que vous l'avez pensé, justement, la diction de cette première phrase-là ?
La première phrase et puis tout le premier poème, c'est dit dans le noir d'abord. Non, mais je voulais vraiment faire entendre. Je vous parlais du Houellebecq politique pour le début de cette deuxième partie, mais pour l'entrée du spectacle, je voulais vraiment faire entrer les spectateurs. Enfin, je trouve que la poésie de Houellebecq est toujours un peu... on a l'impression que c'est une poésie assez faible. Enfin, en tout cas, il y a une sorte de vision, une poésie assez molle. Et en fait, c'est une poésie très puissante, très imagée, très poétique. C'est une poésie très poétique, si j'ose dire. Et j'avais vraiment envie que les gens entrent émotionnellement à l'intérieur de cette chose-là très, très fort. Donc, c'est dit dans le noir, c'est dit avec beaucoup de délicatesse. C'est dit presque au bord de l'émotion par l'actrice à un moment. Et c'était aussi pour trouver... Ça parle du clonage, ça parle d'une nouvelle humanité. La possibilité que cette nouvelle humanité puisse être quelque chose d'émouvant, comme dit Houellebecq, des gens qui vivent à proximité immédiate de la rivière. Je voulais qu'on entende ça très fort et pas qu'on soit dans quelque chose de purement scientifique.
Vous avez signé vous-même la scénographie. Alors, très rapidement, hein, le plateau est encadré par une estrade, mobilier de bureau années 70, des ordinateurs, des lampes et puis au centre du gazon. Quand vous avez pensé à la scénographie, j'ai pu lire que vous vouliez deux niveaux. À quoi ça correspond dans la forme même du roman ? Julien Gosselin.
Dans la forme même du roman, je ne sais pas. J'avais la sensation... Il y avait plusieurs images à l'intérieur du livre qui me laissaient penser que ça pouvait être intéressant. Il y avait la possibilité de réunir les personnages, en plus ceux de la même famille, notamment au début du spectacle. Et puis il y a une phrase, si vous voulez, dans le roman où je me suis dit ça. Il y a une phrase qui dit « Nous pensons aujourd'hui que Michel Jarzynski est entré dans la mer ». Et ça, c'est à la fin du spectacle. Enfin, et à la fin du roman aussi. Et cette l'idée d'un escalier qui descendait vers une surface plane au milieu des autres acteurs qui étaient là à regarder, la possibilité que quelqu'un entre dans la mer m'émeuvait beaucoup. Alors ça a dicté un peu intuitivement la scénographie.
Lucille.
Donc c'est un roman, et comme souvent chez Houellebecq, c'est un roman de facture très classique, avec plusieurs niveaux temporels qui correspondent aux différentes générations. Il y a des vrais personnages. Vous dites que ce sont les difficultés propres au texte romanesque qui ont amené les éléments de la mise en scène. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ?
Par exemple, il y a un long texte qui est dit qui raconte l'histoire de Bruno quand il arrive dans le lycée où il a lui-même étudié en tant que professeur et du désir qu'il a pour une lycéenne. Cette chose-là, c'est dit dans un langage relativement simple, qui n'est pas un langage éminemment théâtral, enfin, qui n'est pas dans un langage qu'on a l'habitude d'entendre sur les scènes de théâtre. Et je sentais qu'on pouvait avec ça trouver un monologue qui soit extrêmement frontal, par exemple avec le public, avec simplement un acteur devant nous pendant 10 minutes, un quart d'heure. Voilà. Donc la mise en scène, là, techniquement, elle a été dictée par la forme du texte. De la même manière, sur les poèmes, y en a un qui est mis en musique, qui est simplement projeté, il y avait quelque chose, voilà, mais toujours. Et en fait, finalement, ce n'est pas tant pièce par pièce, c'est plutôt dans l'ensemble. À chaque fois, comme formellement le texte de la scène suivante était différent de celui de la scène précédente, il fallait modifier la mise en scène, il fallait trouver des choses.
Alors, toute l'équipe du rendez-vous est allée voir la pièce, y compris notre stagiaire Hippolyte Babilotte, et il a une question pour vous. Il en a deux, mais pour l'instant, c'est la première, Hippolyte.
En tant que metteur en scène, est-ce que c'est plus excitant de monter une pièce qui n'est pas écrite pour le théâtre qu'une pièce de répertoire ?
Ça dépend des metteurs en scène.
Moi, pour vous ?
Ouais, pour moi... Pour moi, c'est plus excitant pour le moment, ça pourrait changer, mais c'est plus excitant parce qu'il faut que je trouve des solutions. Et puis parce que ça me pose un défi gigantesque. Enfin, plus le défi est gigantesque, là, le livre est gigantesque. Pas dans sa taille, mais dans son ambition. Plus le défi est gigantesque, plus c'est excitant pour moi et pour les acteurs. D'abord dans la phase d'adaptation et ensuite dans la phase de mise en scène du spectacle. Avec une pièce classique, j'aurais à traiter, la mise en scène interviendrait à un tout autre endroit, c'est-à-dire que vraiment, il s'agirait simplement de créer de la vie. Moi, aujourd'hui, je ne cherche pas à créer de la vie, je cherche à m'en sortir avec une matière textuelle. Donc le travail est légèrement différent.
Et ce n'est pas toujours gagné. On va écouter un extrait. Bruno se rend dans un lieu de vacances, enfin, il a envie de baiser.
Le lieu a été créé en 1975 par un groupe d'anciens 68ards. À vrai dire, aucun d'entre eux n'avait fait quoi que ce soit en 68. Disons qu'ils avaient l'esprit 68ards. Sur un vaste terrain planté de pins appartenant aux parents de l'un d'entre eux, ici, un peu au sud de Cholet. Le projet consistait à mettre en place une utopie concrète. C'est-à-dire un lieu où l'on s'efforcerait, ici et maintenant, de vivre selon les principes de l'autogestion, du respect de la liberté individuelle et de la démocratie directe. Mais attention, hein, le lieu n'est pas une nouvelle communauté. Il s'agit plus modestement de créer un lieu de vacances. C'est-à-dire un endroit où l'on peut, pendant les mois d'été, se confronter concrètement à l'application des principes proposés. L'idée, c'est aussi de provoquer des synergies et des rencontres créatrices. Le tout dans un esprit humaniste et républicain.
C'est l'adverbe concrètement que j'adore, Lucille Gaumont.
Julien Gosselin, vous dites que ce qui a été le plus dur précisément, ça a été de mettre en scène ces passages-là qui se passent dans ce camp de vacances, de ce lieu de changement, alors qu'en fait, ce sont les scènes les plus dialoguées dans le roman et aussi, on peut imaginer, les plus spectaculaires. Qu'est-ce qui résiste pour vous dans ce type de texte-là?
Oh, c'est vraiment, c'est une question de faiblesse de metteur en scène, là.
Alors même que ça, c'est du théâtre?
Ouais, mais justement.
Plus traditionnel qu'il soit.
Ouais, mais justement, c'est pas le théâtre qui m'intéresse en premier lieu. Par exemple, toute la fin du spectacle où il y a quasiment plus rien sur scène et simplement des acteurs qui parlent, moi, c'est un peu ce que je préfère faire et c'est ce qui me semble le plus évident. Là, il y avait quelque chose de l'ordre vraiment, oui, d'un théâtre avec des personnages en plus relativement comiques. C'était des choses qui m'étaient un peu délicates à faire. Mais bon, aujourd'hui, je dois dire que j'attends ce moment du spectacle avec impatience tous les soirs.
Avec Chauvier, quelle est votre relation, vous, au théâtre? C'est quelque chose que vous allez voir ou...
Pas vraiment.
Ou vous en méfiez?
Non, je suis assez preneur. Deux de mes petits livres avaient été adaptés au théâtre, ouais, par Olivier Balazuc. Ça avait été très intéressant, je trouve, en tant qu'auteur, de découvrir ces textes joués.
Vous aviez participé à l'adaptation?
De loin, en tant que, on va dire, conseiller technique, de loin. Mais c'est une expérience assez, assez intéressante, assez enrichissante de se découvrir. Et puis aussi qu'on s'empare que d'autres s'emparent de notre travail. Ça, c'est tout à fait intéressant.
Julien Gosselin, le nom de votre compagnie, Si vous pouviez lécher mon cœur, c'est une phrase que vous répétez à un prof au conservatoire de Lille. Qu'est-ce qu'elle dit de ce qu'il vous a transmis, cette phrase?
Pour le coup, il nous l'a répété vraiment parce qu'il a trouvé shakespearienne comme phrase. Ça dit, alors je ne sais pas si c'est pas dit dans la phrase, mais ça dit l'aspect, la phrase entière, c'est « si vous pouviez lécher mon cœur, vous mourriez empoisonné ». Et bon, voilà, moi j'ai été élevé théâtralement en tant qu'acteur, d'abord en tant qu'élève, dans cette chose, dans ce travail shakespearien, dans ce travail concret, dans l'idée qu'on devait, que la pensée devait être amenée de manière très directe au spectateur. Donc, c'est pas dit dans la phrase, mais moi je le sens quand je l'entends.
Lucille ?
Il y a beaucoup d'anciens élèves du Conservatoire de Lille et d'élèves du Conservatoire de Lille d'ailleurs qui sont très inspirés par les metteurs en scène néerlandais et belges, ils ne sont pas très loin, qui mettent souvent, eux, en scène des romans. Comment vous expliquez qu'en France, ce soit assez peu le cas ?
Ah, bah c'est vraiment une question culturelle. En Allemagne, ils en ont marre même aujourd'hui. Beaucoup de metteurs en scène allemands se plaignent parce qu'ils disent « Nous, on fait plus que des adaptations de films ou de romans. » Donc, vous voyez, on est vraiment à un endroit de décalage total.
Kestorf, des gens comme ça. Ouais.
Absolument. Il y a une question patrimoniale, je crois, terriblement. C'est qu'en France, on est très fiers de notre patrimoine théâtral, Molière, Racine et puis tant d'autres. La question du patrimoine n'est pas totalement la question du théâtre n'est pas détachée de celle du patrimoine en France. Donc la question du roman contemporain ne se pose pas forcément. Et puis il y a un rapport aussi à la langue. En France, le théâtre est lié à la langue. Le théâtre est lié au parler. Et le théâtre n'est pas forcément lié à la structure narrative. Le théâtre n'est pas forcément lié à la question de la littérature détachée de la langue. Et Houellebecq, en tout cas son écriture, n'est pas une écriture qui est faite pour la langue. Ce n'est pas une écriture, par exemple, comme celle du nouveau roman. C'est une écriture qui est faite avec une langue pour une thématique, pour une pensée. Alors, c'est pas ça qui va attirer immédiatement le théâtre.
Hippolyte, une deuxième question.
Alors, donc, votre mise en scène utilise des projections vidéo en direct, des webcams. Le volume de la musique est très fort et donne des allures de concert. Je me demandais quels étaient les metteurs en scène qui auraient pu avoir de l'importance pour vous pour arriver à une telle forme.
Ça, pour le coup, c'est vraiment des metteurs en scène allemands ou néerlandais, forcément, je sais pas. Moi, adolescent, j'ai vraiment vu d'abord tout ce qui était flamand, Jan Lauwers, Jan Fabre. Et puis ensuite, aujourd'hui, les choses que je vais voir bien volontiers, c'est les grands metteurs en scène européens, un peu comme tout le monde, hein, Christoph Warlikowski, Romeo Castellucci, Thomas Ostermeyer, Frank Castorf, tous ces gens-là. Mais après, la question, pour le coup, la question de la musique et de la vidéo, c'est pas quelque chose qui me paraît être une originalité de mon travail. Ça me paraît plutôt être quelque chose qui est...
Parce que même générationnel au niveau de la musique. Hein.
Ouais.
Parce que c'est quelque chose qu'on peut repérer aussi, même si ça n'a rien à voir avec votre théâtre, mais chez Vincent McKay,
ouais,
par exemple.
Ouais. Oui, mais c'est des questions d'outils. C'est simplement des questions d'outils. Avant, les outils, c'était la lumière, grosso modo, au théâtre, et un peu le son. Aujourd'hui, il y a la musique et la vidéo. Ça ne me paraît pas être une preuve d'originalité, ça me paraît juste être... Ce sont des outils qui, d'ailleurs, en plus, si on y réfléchit bien, sont souvent moins chers que le fait de faire de la lumière.
Lucille.
Comme tous les jours, on demande à nos invités de venir avec un son qui les a marqués, et vous, vous avez apporté ça.
La lutte contre l'immigration clandestine, thème d'un nouveau déplacement du ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy, visite précisément à Sangatte, où sont regroupés, vous le savez, quelques 1500 demandeurs d'asile, kurdes et afghans pour la plupart, qui souhaitent gagner la Grande-Bretagne où le régime est plus favorable.
Voilà, bonjour, vous voyez, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur le ministre, qui va enfin s'occuper de notre problème, de notre douloureux problème, on le sait.
Je voulais venir, ne serait-ce que pour comprendre les lieux, et puis pas vous donner le sentiment qui était un peu le vôtre, que vous étiez abandonné.
Les habitants seront déçus. Le ministre est venu, mais n'a rien annoncé.
La fermeture du centre de Sangatte peut-être, doit être un objectif, mais ne peut pas être un préalable.
Identification de ce son.
Julien Gosselin.
D'abord, je dois dire que je suis pas un spécialiste de l'indignation politique. Alors, c'est vraiment pas pour moi. Il s'agit pas de faire ça. C'est juste que moi, je viens de là-bas. Je suis né entre Calais et Dunkerque et j'ai passé mon adolescence à Calais et j'y retourne régulièrement. Mes parents y habitent. Donc là, c'était le moment de la fermeture du camp de Sangatte, du camp de réfugiés. Je suis juste atterré que ça se passe encore aujourd'hui en France. Aujourd'hui, il y a des centaines, voire des milliers de migrants qui sont en train de marcher dans les rues de Calais. C'est des gens qui avaient un emploi, c'est des gens qui avaient une famille. Il y a des chirurgiens, il y a des médecins, il y a des intellectuels qui sont en jogging aujourd'hui dans les rues de Calais et qui sont traité très mal par la police et par les habitants. Et je suis atterré qu'on en parle simplement une fois de temps en temps dans Le Parisien par sensationnalisme avec l'histoire d'un migrant, par exemple, qui a essayé de traverser la Manche en radeau, même si c'est vraiment l'horreur absolue. Et qu'on en parle, que ça ne soit pas un sujet de débat national, parce qu'aujourd'hui il y a un développement en plus d'une sorte d'extrême droite radicale et débile dans le Nord-Pas-de-Calais, notamment à Calais à cause de ça, et une violence totale, qui est même une violence intellectuelle, simplement de voir ces gens-là, c'est l'horreur. Donc voilà, j'ai pas envie de m'indigner plus longtemps, mais je suis épaté qu'on n'en parle pas plus que ça.
Le rendez-vous. Rendez-vous. Extérieur.
Extérieur.
Julien Gosselin et Éric Chauvier, on vous retrouve dans quelques instants. Mais d'abord, c'est le questionnaire autoportrait du lundi de Manu Farine. Ce soir, dans la série Les professionnels de la profession, c'est Léonie Simaga, elle est comédienne, sociétaire de la Comédie française depuis 2010. Manu l'a rencontrée dimanche après-midi en sortie de salle au Théâtre du Vieux Colombier à Paris, après la représentation de Trahison de Pinter dans une mise en scène de Frédéric Bellier-Garcia. Questionnaire théâtre, Léonie Simaga, Manu Farine.
Le théâtre ou le spectacle que vous associez à vos parents.
Tout Molière me fait penser à ma mère et beaucoup des spectacles de Peter Brook me font penser à mon père.
Le costume, par exemple. Et puis Soti Kikuyate,
qui est un acteur qui a beaucoup travaillé avec Brooke, sont des spectacles profondément ancrés dans l'Afrique. Du coup, ils sont assez paternels pour moi.
Premier public,
mes parents et les parents de ma voisine, Anita Buzingo, à Ouagadougou, quand nous avons fait notre représentation de théâtre, où je mettais en scène ma voisine et je me mettais en scène moi-même.
Premier choc de spectatrice.
Les Vainqueurs, d'Olivier Py. J'ai été complètement subjuguée par la foi qui animait ce spectacle, l'écriture d'un lyrisme total, échevelé, excessif, la sexualité, une grande réflexion sur le christianisme, sur le mal, un spectacle de 8 heures à Avignon avec 1000 personnes, tous à vivre ensemble quelque chose du théâtre, du vrai théâtre.
Première scène au Français.
Zarès dans Esther. Je venais de rentrer au conservatoire. Alain Zepfel, qui était le metteur en scène, avait convaincu Marcel Bozonnet, administrateur de l'époque, de m'engager, même si j'étais qu'élève. Et donc, je faisais mon entrée. Je partais de cours et j'allais jusqu'à Jardin, quasiment, de profil. Profil parfait, comme ça. Et puis, je tournais la tête vers le public. Et la première fois où j'ai tourné la tête, et où j'ai vu le public et 800 personnes, comme ça, et cette salle incroyable, c'était un moment... éblouissement total.
L'auteur que vous aimiez et que vous n'aimez plus ou que vous aimez moins?
C'est Bernard-Marie Coltès, sa langue, sa pensée. Curieusement, oui, il est plus lointain maintenant, mais c'est comme un ami qui manque.
L'auteur que vous avez appris à aimer ou que vous avez fini par aimer?
Kleist, je ne connaissais pas avant de travailler. Penthésilée, ça a été difficile. Même à la fin de l'exploitation du spectacle, qui avait été un spectacle très violent, avec une réception très contrastée, j'ai beaucoup souffert et beaucoup aussi été dans l'extase. Et j'ai l'impression que la violence du spectacle, du rôle, m'avait presque mis à distance de l'écriture. Et c'est un peu après qu'en relisant, j'ai compris cette écriture. Et puis là, de relire le texte, de le réentendre, oui. Kleist, c'est un auteur vraiment majeur que j'ai appris à comprendre.
Le spectacle que vous êtes retourné voir?
Les Vainqueurs. J'y suis allée 3 fois.
Le spectacle que vous auriez aimé voir?
Tous les spectacles de Chéreau, La Dispute. Je pense que c'est ma génération. On a tous été ceux d'après Nanterre, l'école. Très frustrés d'être venus un peu trop tard.
Le metteur en scène qui vous a mis en danger?
Jacques Lassalle, dans Il Campiello de Goldoni, en me faisant jouer une Lucetta très violente. Je n'avais pas le droit de parler normalement. Je devais hurler constamment. Et évidemment, ça engage quelque chose d'hurler sur un plateau. Ça engage la responsabilité différemment.
Un rituel avant de monter sur scène?
Oui, c'est Michel Vinavert qui m'a offert un livre qui s'appelle le livre Siècle. C'est une compilation de photos historiques du XXe siècle. C'est comme une espèce de prise directe avec le monde, puisque ces photos, bien sûr, 2/3 de ces photos sont horribles. Et pour moi, quel que soit le sujet, quel que soit ce que je vais faire quand je vais monter en scène, ce qui compte, c'est de se rappeler que les gens qu'on va voir sont vrais, que nous, on est des gens vrais et qu'on vient pour raconter des histoires qui doivent nous aider à être dans le vrai.
L'acteur que vous auriez aimé être?
Marlon Brando.
Léonie Simaga, merci.
Des réactions, Julien Gosselin, le metteur en scène, par rapport à cette parole de comédienne?
J'entendais très bien ce truc sur Chéreau, ce truc post-école des Amandiers. Oui, moi, je suis juste la génération, sans doute, juste après. Donc, c'est une chose qu'on a assez peu vécue. Et beaucoup de gens de ma génération se sont rendus compte, je crois, de l'importance théâtrale de Patrice Chéreau de manière sensible. Évidemment, on pouvait l'apercevoir de manière intellectuelle au moment de son décès, il y a un an. Et enfin, voilà, c'est quelque chose qui, pour nous, était encore un peu loin.
Lucille ?
Vous avez fait le conservatoire, vous n'avez jamais eu envie d'être acteur ?
Si, je l'ai été un peu, mais là j'ai surtout envie d'arrêter. En fait, je joue plus depuis un an et demi, et ça me fait beaucoup de bien, j'aime pas beaucoup faire ça.
Pour quelle raison, vous savez ?
Parce que je suis pas très bon.
Oui, mais ça, vous dites tout ça.
Oui, mais...
Chaque fois qu'on a un metteur en scène qui a fait l'acteur, c'est parce qu'il n'était pas très bon.
Oui, mais... Enfin, je ne fais pas de la mise en scène parce que je suis un mauvais acteur.
Non, j'ai bien compris.
Mais je suis tellement exigeant avec les acteurs avec qui je travaille que je ne comprends pas comment on peut être aussi mauvais que je le suis. Donc, je préférerais pas me montrer.
Vous dirigez depuis la scène où vous dirigez dans la salle ?
Généralement dans la salle, mais je monte sur la scène à peu près toutes les 5 secondes. Donc c'est des allers-retours, je marche en continu en fait.
Et l'exigence, elle porte sur quoi précisément ? Puisque vous dites que vous êtes un metteur en scène exigeant.
Ça porte sur... dès que je sens chez un acteur une tentative de ramollissement ou de facilité, c'est-à-dire comment faire pour que le spectateur ait l'impression qu'il voit la même chose tous les soirs sans que ça me coûte énormément, ça me fatigue beaucoup. Alors généralement, je demande aux acteurs d'être tout le temps en réactivité et tout le temps de réinventer quelque chose pour eux-mêmes, même si le spectateur ne le verra pas.
Le rendez-vous.
Et aujourd'hui, on parle du care. Le care, autrement dit en anglais, le soin ou la sollicitude, qui est une notion dont on a beaucoup parlé.
Eh oui, plateau fin des concepts avec vous, Éric Chauvier, anthropologue. Vous publiez votre 10e ouvrage chez Alia, Les mots sans les choses. Pas facile à dire. Hein. Un petit essai mordant qui analyse la faillite des grands concepts des sciences sociales qui sont utilisés à tort et à travers par tout le monde. Un livre singulier, d'abord parce qu'il est écrit à la première personne, on va y revenir, qu'il est traversé de souvenirs personnels, ça aussi on va y revenir, et surtout un livre qui pointe les failles théoriques de certains intellectuels, de Michel Foucault à Pierre Bourdieu, en passant par Claude Lévi-Strauss. On vient d'ouvrir avec le début d'une émission de France Inter sur le CARE, C-A-R-E. C'est une de vos bêtes noires. En quoi est-ce que ce concept récent est emblématique pour vous de ce processus de désaffectation dans la langue, Éric Chauvier ?
Je pense que beaucoup de chercheurs qui aujourd'hui utilisent le CARE font des choses tout à fait sérieuses pour nuancer mon propos. Mais après, je pense que le CARE est une injonction éthique. C'est-à-dire que c'est le monde tel qu'il devrait être, mais que ça n'a pas forcément de valeur classificatoire. Ça ne nous aide pas à comprendre véritablement le monde. Et ma critique, elle est à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'à quel moment les idées sont avant tout des mots qui circulent dans la société, d'un think tank vers des instances de gouvernance émanant en amont de la recherche, et comment cette circulation-là, finalement, finit par ne plus du tout classer quoi que ce soit. Et là, on est dans ce que je critique dans mon livre, c'est-à-dire des concepts qui s'exonèrent totalement de tout contexte. On ne sait pas véritablement quelle est leur valeur, d'où ils viennent, et finalement... Il y a une forme de ça, tout ça devient assez éthéré, mais par contre assez vendeur. Même si pour le CARE, ça s'est pas vendu exactement comme on pouvait le penser, en tout cas comment les auteurs pouvaient imaginer que ça se vende. Il y a une sorte de concours Lépine du concept. C'est une réalité. Les think tanks sont avant tout des promoteurs de mots. C'est-à-dire que ces mots-là, aujourd'hui, dans quelle mesure ils nous aident à comprendre le monde ? Je ne jette pas tout dans les mots qui peuvent sortir de ces laboratoires-là. Mais si vous voulez, dès qu'on se heurte, dès qu'on va un peu du côté de Sangatte ou dans les périphéries un peu aujourd'hui qu'on appelle délaissées, même si c'est plus compliqué que ça, on se rend compte que ces mots-là n'ont plus véritablement d'usage. Je peux essayer de prendre soin, par exemple, puisque le CARE, c'est prendre soin.
Prendre soin, oui.
Je peux essayer de prendre soin de ce que je décris dans mon livre, un chapitre consacré aux propos racistes dans les champs chez les travailleurs saisonniers, d'un souvenir fort. Je peux essayer de prendre soin de ces personnes-là, si vous voulez. Mais prendre soin, ça va m'empêcher de questionner le sens de ces conflits-là. C'est-à-dire que ces conflits font aussi du sens. Et ça nous dispense de les étudier, d'étudier cette forme de dureté du monde social qui est malgré tout omniprésente. Et le problème de ces mots-là, de ces concepts-là, c'est qu'ils étouffent, ils lissent cette dureté-là. Et je pense que vous avez rappelé certaines échéances 2017, des prochaines élections et l'extrême droite qui est en train de monter. Je pense qu'il est vraiment intéressant de questionner nos concepts, justement parce que ces concepts-là, ils se retrouvent à tous les niveaux de la société, sauf au niveau le plus dur, où à ce niveau-là, eh bien, ils ne résonnent plus, ils ne font plus du tout de sens.
Il y a une question d'abord sur le titre que j'aimerais vous poser, qui reprend le détournant, bien sûr, celui de l'essai de Michel Foucault, Les mots et les choses. Qu'est-ce que ce titre vous permet ?
C'est une référence à l'œuvre, comme vous l'avez dit, de Michel Foucault, qui pour moi a été très important dans mon travail. Je me suis beaucoup nourri de son œuvre. C'est un jeu de mots, pour le coup. Mais j'assumais une forme de radicalité. Et c'est vrai que de reprendre ce jeu de mots en lui-même est assez provocateur. Et ça m'engageait à une forme de radicalité et à aller jusqu'au bout de mon propos, finalement, qui était de...
Qui est donc de faire exactement avec le titre ce que vous dénoncez par rapport au concept.
Foucault avait parfaitement, évidemment, saisi cette distinction entre les mots et la chose. Spinoza l'avait fait avant lui, Confucius avant lui. Il y a toute une généalogie moi, je m'inscris très immodestement dans cette généalogie-là. Mais en tout cas, c'est ce que nous avons perdu et que Foucault, justement, nous enseignait. Cette distinction entre le concept et l'expérience. D'ailleurs, Foucault distinguait, c'est intéressant, le concept, la connaissance du savoir. La connaissance, c'est ce qui s'imposait par le haut. Le savoir, c'est l'expérience que vous faites du monde. Et c'est deux approches tout à fait différentes de la connaissance. Donc, je ne détruis pas tous les concepts. Je n'ai pas les moyens de toute façon, mais simplement, c'est plutôt une réhabilitation du savoir. Et comment le citoyen ordinaire peut questionner justement les concepts. Et questionner les concepts, c'est une forme de savoir.
Lucille.
Vous faites assez peu référence à la linguistique. C'est étonnant quand on travaille comme vous sur le langage. Il y a quelques pages à la fin de l'essai sur les déictiques dans la langue des politiques, mais pas plus.
Oui, parce que c'est... Parce qu'il y a une volonté aussi d'être fluide dans ce texte-là, d'être assez radical, de créer du débat là où il n'y en a pas forcément, et aussi de m'exonérer finalement c'est l'analyse pragmatique du langage, si vous voulez, qui est ma référence, c'est-à-dire Austin, tous ces auteurs-là. Et je pense que c'était un peu fastidieux, simplement à rappeler techniquement. Et avec Gérard Bérébi, l'éditeur d'Alia, nous sommes sensibles à cette question de produire un texte qui pourrait atteindre des non-spécialistes, tout en gardant un certain niveau d'exigence, au fond. On évite trop les notes de bas de page, etc., ce genre de choses qui empèsent et qui nuisent à la fluidité du texte.
Alors, à la fin de l'essai, vous faites le constat, je vous cite, de dilution généralisée des sciences de l'homme dans la phase tardive du capitalisme. Comment est-ce que vous établissez le lien, c'est très intéressant, entre cette désaffectation du langage et l'histoire du libéralisme, Éric Chauvier ?
On peut revenir au think tank et comment qui est une émanation directe de la pensée néolibérale et de la social-démocratie qui elle-même est partie prise avec la pensée néolibérale, puisque c'est la seule alternative. Margaret Thatcher le disait il y a 30 ans, finalement, c'est nos alternatives. Dans cette logique-là, ce langage fonctionne parfaitement pour lisser. Je pense que il y a une sorte d'économisme aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes définis par notre valeur marchande, finalement, à tous les niveaux.
C'est très Houellebecq, en fait.
Au fond, alors Houellebecq, il est plus durkheimien. C'est-à-dire qu'il a plus une vision assez positiviste du monde. Ça, ce n'est pas mon paradigme, en fait. Mais malgré tout, j'aime beaucoup débattre de cette façon-là, parce qu'il a évidemment un propos très fort. Mais il y a effectivement cette idée que je ne pense pas que l'idéologie néolibérale puisse s'imposer sans un lissage de la négativité. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parlait de Sangatte, on peut parler de cette France oubliée. On a des textes qui peuvent apparaître là-dessus, mais l'important est d'arriver à recouvrir, je dirais, cette négativité-là, cette conflictualité, cette dureté. Et le langage aide beaucoup l'idéologie néolibérale. Il est même l'instrument premier, que l'empereur avait étudié ça en d'autres temps, sans comparer évidemment, mais en tout cas en termes d'analyse, on revient à des choses de cet ordre-là.
Julien Gosselin, je vous vois opiner du chef.
Oui, non, avec l'empereur, c'est parce que c'est vraiment un des ouvrages, une vraie référence pour moi, mais je ne sais pas si ça joue dans ma pratique théâtrale, mais dans ce que ça raconte de l'utilisation du langage, forcément, c'est extrêmement intéressant pour quelqu'un qui fait le métier que je fais. Non, après, je trouve qu'il y a quelque chose sur la question de la social-démocratie et des think tanks qui créent ces concepts plus ou moins vides, ou en tout cas qui ne décrivent pas forcément ce qu'ils devraient décrire. Quelque chose comme une forme d'abandon de la gauche, d'un certain point de vue, à la droite, de l'idée de dire ces concepts-là, au fond, n'ont pas de sens. Aujourd'hui, on entend beaucoup d'éditorialistes de droite critiquer ces choses-là, et la gauche se contente de pondre des concepts comme ça, assez mous, pour recouvrir justement les choses. Et je suis toujours un peu déçu de voir que ça, par exemple, on sait que Philippe Muret critiquait beaucoup ça. Tout le monde s'amuse de ça, tout le monde s'en félicite de ça, mais ce serait bien peut-être que des gens qui ont une pensée moins réactionnaire que celle de Philippe Muret s'en empare.
Éric Chauvier ?
Oui, je suis complètement d'accord. L'histoire de la gauche depuis le septennat de Mitterrand est quand même une histoire aussi d'une labellisation de certains concepts. Après, Chirac reprend la fracture sociale, mais on retrouve le lien social, le Caire avec Martine Aubry. On peut retrouver une sorte de généalogie de ces concepts et comment ils apparaissent ces derniers temps. Et effectivement, c'est sûrement un renoncement à changer la société, je pense, profondément.
Lucille.
Éric Chauvier, il y a quelque chose qui frappe dans la forme, dans votre écriture, c'est votre capacité à employer des métaphores. Par exemple, faire les poubelles du savoir et du pouvoir en Occident, dès les premières pages. Est-ce qu'on pourrait dire que vous faites jouer l'image contre le concept ?
Alors là, je m'inscris vraiment dans une tradition que j'aime beaucoup, qui est celle d'un philosophe qui s'appelle Austin, et Wittgenstein aussi. C'est des philosophes du langage ordinaire, c'est-à-dire qu'ils prétendaient faire de la philosophie, alors en contestant les grands systèmes philosophiques anciens et autres, mais en utilisant des exemples ordinaires. Et je trouve ça extrêmement... Et Austin, beaucoup d'humour dans l'œuvre d'Austin, par exemple. Et je ne sais pas si je réponds précisément à votre question, mais en tout cas, c'est mon inspiration. C'était arriver à retrouver... La plupart des situations peuvent s'expliquer par ce type d'explication tout à fait ordinaire. Ça me plaît beaucoup.
Chaque chapitre s'appuie sur une expérience personnelle, parfois très personnelle, comme par exemple la maladie de votre femme. Qu'est-ce qu'il y a de plus réel dans le singulier, Éric Chauvier ?
En tout cas, qu'est-ce qu'il y a de totalement déréalisé dans l'usage de certains concepts ou dans ce que j'appelle des fictions théoriques ? Comment, à la façon de Montaigne, mais très immodestement encore, je dis ça, comment est-ce qu'on peut tirer ce petit fil qui est l'expérience singulière et arriver à établir, à amener le lecteur à se questionner sur ces questions-là ? Ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Alors, l'épisode avec mon épouse, effectivement, est assez intéressant à ce niveau, c'est-à-dire qu'à partir de ce petit fil, qui est un événement assez dramatique pour moi, j'arrive peu à peu à retrouver la fiction théorique qui va derrière.
Par exemple, pour la maladie.
L'histoire, c'est-à-dire qu'un AVC, nous vivons en zone périurbaine, et je me jette sur Internet et je vérifie que des études canadiennes ont montré qu'il y avait des liens entre l'apparition d'AVC et la zone périurbaine. La pollution, le stress, ce que Michel Bounon appelle aussi l'organisation de l'activité. C'est intéressant, ça qui en revient à la pensée libérale, au fond. Et je propose cette explication-là aux spécialistes. Qui me dit, dans un premier temps, c'est une hypothèse tout à fait intéressante. Il y a des villes en France, je ne dirais pas lesquelles, qui sont concernées par ce type de problèmes épidémiologiques. Et puis, dans un deuxième temps, il se rétracte. C'est-à-dire qu'on se revoit. Et là, je comprends que ça l'embarrasse, au fond. Et là, je ne l'accable pas du tout. Il s'est très bien occupé de mon épouse. Le problème n'est pas là. Simplement, il y a une fiction théorique qui est derrière depuis 1986. C'est la logique assurantielle. Avec son appareil conceptuel. C'est-à-dire que depuis la fin des années 80, on considère qu'il n'y a plus de risque zéro, si vous voulez, et que donc il faut se prémunir. Et les spécialistes de la clinique sont aussi soumis à cette logique-là assurantielle. Et donc je deviens encombrant pour lui, parce que je deviens celui qui peut lever un lièvre ou éventuellement engager des procédures contre lui. Et c'est pour montrer comment, ici, les mots de ces fictions théoriques, les mots de cette logique assurantielle peuvent recouvrir son expérience de spécialiste. Et comment tout d'un coup ce clinicien qui est tout à fait compétent ne peut plus exprimer son expérience. En fait, il n'est plus spécialiste.
Éric Chauvier, on vous a demandé, comme à tous nos invités, de nous apporter un son qui vous a marqué. Et voici ce que vous avez choisi. Éric Chauvier, identification de ce son et la raison pour laquelle il vous a marqué.
C'est manifeste, c'est une chanson des Berruriers Noirs de 83. J'ai été complètement. C'était aussi pour montrer comment la formation, ce que nous devenons, notre conscience sociale, notre conscience critique, est éveillée aussi par un son, en fait. Et ce son-là, qui est assez froid, qui est assez sale, m'a complètement éveillé à ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire, ça date maintenant, mais j'écoutais ça, j'avais 15 ans, mais à ce que je disais tout à l'heure, à une certaine négativité, à une attention portée justement à ce qui n'est pas lisse, à ce qui ne fonctionne pas, à ce qui, et les Berruriers Noirs, c'est l'exemple type du groupe qui ne fonctionnait pas très bien, même si quand même c'était très très bon à l'époque.
Lucille, une dernière question.
Éric Chauvier, il y a quelque chose qui donne un peu le tournis dans Les mots sans les choses. On a l'impression d'être dans une telle impasse théorique que toute capacité finalement à décrire le monde est de toute façon biaisée. Est-ce que du coup, il faut appliquer jusqu'au bout la théorie de Wittgenstein, selon lequel ce dont on ne peut pas parler, il faut le taire ?
Alors, c'est technique tout ça quand même. C'est-à-dire que Wittgenstein parlait philosophie. Moi, j'ai l'immense ambition d'amener ça vers l'anthropologie. Et ça veut dire qu'au contraire, on peut verbaliser. Ce que je montre, c'est justement que ces concepts recouvrent notre possibilité de prendre la parole. C'est les périphrases, si vous voulez, tout ce que vous expliquez quand vous n'êtes pas bien dans votre travail, dans votre vie amicale, familiale, etc. La question, c'est justement de ne plus le taire. c'est-à-dire d'être capable de remettre ces concepts en contexte, de voir qu'ils ne fonctionnent pas, et à partir de là, d'être capable de parler de soi de façon spontanée, libérée. Enfin, c'est une sorte de désaliénation par le fait de remettre les concepts en contexte.
Est-ce qu'il y a un concept concrètement, pour reprendre le terme de Houellebecq, qui vous a poussé à écrire ce livre, en tout cas à revenir sur cette thématique, parce que vous l'aviez déjà travaillé en 2009 dans un précédent essai ?
Crise, évidemment, j'avais travaillé sur le concept de crise qui aujourd'hui est complètement usé. C'est-à-dire que c'est l'exemple type du. Et effectivement, le cheminement, il vient de là au départ. Mais effectivement, c'est ce mot-là qui finalement finissait par recouvrir toutes les expériences. Est-ce qu'on parle de quelqu'un qui est victime d'un plan social ? Est-ce qu'on parle de. Vous voyez, c'est-à-dire toutes les expériences ordinaires, pour le coup, non, c'est la crise. Ben non, c'est pas la crise. En fait, c'est un peu plus compliqué. Mais ce que je veux montrer, c'est que ces mots-là tétanisent la prise de parole. C'est aussi leur dimension intimidante, la dimension intimidante de ces concepts.
Si vous pouviez lécher mon cœur, vous mourriez empoisonné.
Ce jeu de mots en lui-même est assez provocateur.
Mais là, j'ai surtout envie d'arrêter.
Puisque c'est la seule alternative.
Merci à nos invités. Julien Gosselin, Les Particules élémentaires, ça se joue à l'Odéon Théâtre de l'Europe aux Ateliers Berthier à Paris jusqu'au 14 novembre. Puis les 18 et 19, vous serez à Brest, le 21 et 22 à Rennes et à travers toute la France. Les dates sont disponibles sur le site de l'émission Éric Chauvier, Les mots sans les choses, apparu aux éditions Alia. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain. Demain, Tchaïkovski, on l'entend, et littérature avec Boris Berezovski et Olivier Guez. Des annonces, Hippolyte.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Lucille Como, Adrien Nazelli, Hippolyte Babilotte et Jules Rouff. Journal de la culture Zoé Sfès, à la technique Bruno Gagnère-Fontanil, Élise Leu et à la réalisation Thomas Beau.
Il est 19h54, vous écoutez France Culture, c'est bien ? Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec Entrée Libre, ce soir à 20h15 sur France 5.